Voilà, c'est un grand privilège que de vous présenter notre orateur, que vous connaissez sans doute les uns et les autres, notre frère à l'instant. Vous avez d'ailleurs en partie dans votre cahier du congressiste une présentation. Moi, je me rappelle du travail que nous avons fait avec Alain dans les années 88. Alors, je pense que tout le monde était né, peut-être pas. Notre frère qui a travaillé en Alsace avec Radio Eval, fondateur de Radio Eval, missionnaire avec France pour Christ, et au niveau du comité qui était alors donc la Fédération évangélique de France, la mise en place de deux points forts qui, et nous sommes reconnaissants, ont été repris aussi dans le cadre du CNEF, donc cette question de la semaine de prière pour nos autorités, et puis, lors des 25 ans de la FEF, l'opération Mère de France. La première fois qu'Alain nous a présenté ce projet, je me suis dit, jamais on y arrivera. Le but était d'offrir aux 36 663, si ma mémoire est bonne, à l'époque, de Mère de France, un Nouveau Testament. Et tout a pu être bouclé, financièrement et autres, et Alain a été l'initiateur de ce grand projet. Mais il a fait aussi tellement d'autres choses, et c'est un grand privilège pour moi que de l'accueillir. Mais avant, nous voulons aussi demander que le Seigneur guide notre frère et nous parle de sa part. Seigneur, merci pour notre frère Alain. Merci aussi pour son épouse. On te demande de la bénir, de la protéger. Te demandons maintenant que nous ayons des cœurs attentifs à ce que tu veux nous dire de sa part, de ta part, par lui. Merci pour l'encouragement que nous allons recevoir. Peut-être aussi pour les avertissements que tu veux nous donner. Apprends-nous, Seigneur, à être de véritables disciples. Et comme il nous a été lu tout à l'heure, que nous puissions avoir cette oreille du disciple et qui écoute. Bénis notre frère parmi nous maintenant. Amen. Merci Alain.
Merci Dominique. C'est impressionnant de vous entendre chanter. Vous êtes une chorale magnifique. Et j'étais très content qu'on chante « Dieu, tu es grand » parce que franchement, je me sens tout petit. Mais je vais vous dire la vérité. Il y a quelques mois, le Seigneur m'a mis à cœur le thème que nous allons développer pendant ce congrès. Pour une spiritualité... Ah, il faut que j'allume encore la zapette. On. Ça doit être ça. Pour une spiritualité et un leadership à l'image de Christ. Et j'avais cette idée qui traînait dans ma tête. Enfin non, c'était plus que ça, c'était sur mon cœur. Et un matin, j'ai dit au Seigneur, écoute, il y a deux solutions, Seigneur. Ou cette préoccupation vient de toi, alors il faut que tu me la confirmes, ou alors c'est un film que je me suis fait, et dans ce cas-là, tu me débarrasses de cette préoccupation pour une spiritualité à l'image et un leadership à l'image de Christ. Et j'ai prié consciemment ce matin-là en demandant à Dieu de faire le tri. Et une heure après, j'ai eu un coup de téléphone de Aurélien. Aurélien, là, je ne le connais pas encore. Aurélien, on se parlera un petit peu, hein ? Avec plaisir. Aurélien m'a dit, Alain, on voudrait que tu sois l'orateur de notre prochain congrès. Est-ce que tu as un sujet ? Ouais, j'ai un sujet. Vous comprenez comment pour moi, c'est quelque chose qui m'a encouragé. Et cette invitation que vous m'avez lancée, eh bien, elle m'a stimulé à continuer ma recherche et à réfléchir à ça. Parce que, je vais vous dire, depuis mon enfance, j'ai un petit peu une frustration. Est-ce que je connais Dieu plus avec ma tête et avec ma connaissance, ou est-ce que je connais plus Dieu et Christ avec mon cœur ? Et pour moi, ça c'est quelque chose qui m'a accompagné toujours. J'ai développé 40 ans de ministère. Pendant 40 ans de ministère, je me suis donné à fond. Et il y a plus de 10 ans, j'ai participé à une retraite spirituelle et sur le programme du premier matin, il y avait promenade contemplative. J'ai dit, c'est quoi ce truc-là ? On m'a dit, tu verras. On a fait une balade en silence où on nous a dit d'écouter Dieu. Et tout le monde a entendu quelque chose sauf moi. Et ma question c'était, est-ce que je suis en train de passer à côté de quelque chose dans ma vie spirituelle ? Je n'ai pas eu beaucoup de temps de réfléchir pendant les 40 ans de ministère, parce qu'on court, on y va. Mais maintenant, je suis un retraité, bien que je sois un retraité non pratiquant. Mais quand même, j'ai abandonné un certain nombre de responsabilités opérationnelles et j'ai eu plus de temps pour me placer en face de Dieu et pour réfléchir. Et durant ces dernières années, j'ai découvert de nouveaux auteurs qui m'ont aidé sur ce chemin. Henri Nouwen, Dallas Willard, Richard Foster. Peut-être pas tous des auteurs évangéliques, mais vous allez voir, j'y ai trouvé de nouvelles pistes. Donc merci beaucoup pour votre invitation. D'ailleurs, depuis, j'ai créé mon blog qui s'appelle « Parole de mentor pour une spiritualité et un leadership à l'image de Jésus-Christ ». Mais je vous remercie de votre invitation, mais je voudrais que vous vous souveniez de ça. Je suis un apprenti. Je ne viens pas avec des solutions toutes faites, ficelées. Mais j'ai encore besoin de l'assistance du Saint-Esprit dans tout ce que je fais. Donc, accueillez ce que j'ai à vous dire, comme les paroles d'un apprenti. D'ailleurs, Thomas Merton a dit « Nous ne voulons pas être des débutants » avec un « A ». Mais soyons convaincus que nous le serons, nous ne serons jamais rien d'autre que des débutants, toute notre vie. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est pouvoir nous placer devant Dieu et dire « Qu'est-ce que je peux encore recevoir, apprendre de toi ? Et mon cœur est ouvert à toi, Seigneur. » Tout commence, comment Dieu nous forme à l'image de Jésus-Christ ? C'est le premier thème de nos quatre conférences. Destinée d'avance à devenir conforme à l'image de son Fils. Franchement, sur l'échelle de vos valeurs personnelles, quelle note vous donnez à cette affirmation théologique essentielle ? Est-ce que devenir conforme à l'image de son Fils est une option dans votre vie ou quelque chose de fondamental? Est-ce que cette préoccupation d'être conforme à Christ est enfouie sous beaucoup de couches de préoccupations, d'obligations, etc. et même parfois de déceptions et d'illusions? Dallas Willard a dit « Pour vivre dans une relation de coopération consciente et d'amour avec Dieu, nous devons clarifier ce pourquoi nous vivons. C'est une question inéluctable. Il se peut que je ne sois jamais parvenu au point où je peux dire sincèrement, je vis pour une chose, et une chose seulement. Être comme Christ, participer à son œuvre, vivre au sein de son peuple, et le servir, lui et son peuple, dans ce monde. Je veux, par ma vie, bénir d'autres au nom de Dieu. Je vis pour une seule chose, et une chose seulement, être comme Christ, participer à son œuvre, vivre au sein de son peuple, et le servir, lui et son peuple, dans ce monde. Je veux par ma vie bénir d'autres au nom de Dieu. Je vous laisse quelques instants pour méditer. Est-ce que c'est votre préoccupation ? Est-ce que c'est avec cette pensée que vous êtes venu ici ? Être comme Christ. Vous allez sourire. Mais je vais vous dire que tout commence par un disciple. Partout où je passe, au Québec, à l'Afrique, en passant par les îles, eh oh, notre ami du Québec, là, où es-tu ? Guy, voilà. Nous avons travaillé ensemble au Québec. Mais que ce soit du Québec à l'Afrique, en passant par les Antilles, je remarque que les problèmes sont à peu près tous les mêmes. Les responsables d'église disent « Où sont les jeunes ?» Et j'ai ramené une fois un jeune avec moi dans une grande pastorale à Nancy. Certains connaissent ce jeune en question. Et le responsable m'a dit Tu les trouves où, des gars comme ça? Parce que chez nous, il n'y en a pas. Tout commence par la formation de disciples. Les quatre étapes par lesquelles Jésus a travaillé, on les connaît bien, je n'ai pas besoin de m'apesantir. Mais dans Jean 1, 35 à 51, Jésus a dit, venez, ils ont été appelés, venez et voyez, pour passer de spectateur à croyant. La première séquence, c'était de vivre comme le maître. Ils ont été en contact avec l'Évangile. Tout commence par un contact avec l'Évangile. Même si on est né dans une famille chrétienne, on a besoin quelque part de se positionner face à l'Évangile. Ensuite, Jésus a dit, suivez-moi, pour qu'ils passent de croyants à engagés, qu'ils continuent à développer leur manière de vivre avec le maître, pour qu'ils s'enracinent. Je vous dis tout de suite, les deux premières lignes, on ne les fait pas trop mal dans nos églises. C'est après que ça se complique. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, pour qu'ils passent d'engagés à apprentis, pour qu'ils poursuivent la mission du maître. Et puis quatrième étape, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, pour passer d'apprenti à ouvrier et pour être envoyé soi-même. Tout à l'heure, Étienne Lermenot soulignait qu'il y a de la progression dans les églises évangéliques, mais pas forcément dans les instituts de formation. On est déjà là. Est-ce qu'on est, nos églises envoient des ouvriers dans la moisson? On est déjà sur une vraie question. Alors, quelle définition avons-nous du disciple? Un disciple vit avec son maître, comme son maître, mais il poursuit la mission. Et l'idée de poursuivre la mission est souvent absente de notre compréhension du discipulat. Voilà le même schéma, mais présenté différemment. Avec la première étape, nous savons faire, nos églises labourent, sèment, moissonnent, évangélisent pour que des gens passent de non-chrétiens à nés de nouveau. Ensuite, deuxième étape, pour les enraciner, nous savons les baptiser, les enseigner, leur enseigner un certain nombre de disciplines. Je reviendrai sur cette question pour qu'ils passent de nés de nouveau à engagés. Et c'est à partir de là que peut-être les choses se gâtent un petit peu. Équiper pour passer de engagé à apprenti. Discerner les dons. Tiens donc, il y a quelque temps, j'étais dans une église pour un week-end d'église. Et dans cette église, les responsables m'ont dit, il n'y a pas d'évangéliste dans notre église. Je dis, vous êtes sûr? Faisons un test des dons. Alors nous avons tous fait un test des dons. Et on a découvert, en faisant un test des dons, qu'il y avait 4 évangélistes. Mais si on ne le sait pas, comment est-ce qu'on les accompagne? Comment on marche devant eux? Comment est-ce qu'on prend soin d'eux? Comment est-ce qu'on les aide à se développer dans leur ministère? Mais chose beaucoup plus amusante, dans cette église, on a découvert, non c'est l'inverse, il y avait 8 évangélistes et 4 jeunes qui préparaient des diplômes très importants et qui avaient le don de libéralité. Ah bon, ça existe ça, le don de libéralité? Et alors, si un jeune dans notre église a un don de libéralité, est-ce qu'on peut le former? Il y a une formation à donner? Comment est-ce qu'on devient un bon gérant des biens de Dieu si on n'a pas été accompagné? Et vous voyez que dans ma troisième étape ici, il y a accompagné. J'ai discuté il n'y a pas tellement longtemps avec un responsable d'une église qui me disait lui aussi, les jeunes on ne les voit pas. J'ai dit, mais vous avez formé des disciples? Ah oui, on a formé des disciples. J'ai dit, alors qui était celui qui montrait l'exemple et qui accompagnait? Parce que le gars m'a dit, on a des très bons enseignants dans notre église. J'ai dit, oui, vous avez des bons enseignants, mais qui a fait avec? Et le gars m'a dit, dans ce cas, on n'a pas formé des disciples. Et la quatrième étape, c'est cultiver la vision, reconnaître, envoyer, il y a une faute, voilà, c'est pas grave, envoyer. Maintenant, comment Dieu nous forme? Quelle est la manière dont Dieu, la continuité de la formation de disciples? Je l'ai dit, on l'a vu avec les quatre étapes, que tout commence par un contact avec l'Évangile. Il faut qu'on ait quelqu'un vous ait partagé l'Évangile, que vous ayez placé votre foi en Dieu, que vous ayez donné une réponse personnelle, que vous ayez intégré une communauté. Ça, on sait faire, il n'y a pas de souci. Deuxième étape, le discipulat. Il y a une transformation progressive, un attachement à Christ, un engagement visible, des actions concrètes qui doivent se développer. Les racines doivent se faire. Et puis après, il y a une formation spirituelle qui va se faire durant toute notre vie. Nous allons apprendre à répondre à la grâce et nous allons être façonnés à l'image de Christ. Nous allons écouter le Saint-Esprit. Nous allons développer orthodoxie, orthopraxie, orthopathie. Je reviendrai là-dessus dans une prochaine conférence. Ne vous inquiétez pas. Mais nous devons développer une obéissance et une réalité cachée dans toute notre vie, en particulier par le moyen d'amitié, de communauté et de mentorat. Évangéliser, on connaît. Faire des disciples, c'est déjà parfois un peu plus complexe. Venons-en maintenant à la manière dont Dieu nous forme à l'image de Christ. Dieu utilise essentiellement trois vecteurs pour nous former à son image. Trois vecteurs seulement. Les disciplines spirituelles, les circonstances spirituelles et les relations spirituelles. Les disciplines spirituelles. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, Colossiens 4, 1. Les disciplines spirituelles rendent visibles nos valeurs spirituelles. Elles sont à la fois spécifiques et concrètes. Elles sont autant de vecteurs qui nous rendent attentifs à la grâce de Dieu. Elles s'imposent à nous par notre propre discernement ou par le conseil d'autrui comme pertinentes pour notre formation continuelle dans la voie de l'esprit. Et le focus de ce vecteur que Dieu utilise pour nous former à l'image de Jésus-Christ, c'est la piété personnelle. Mais là, on parle de discipline spirituelle. Quelle discipline spirituelle encourageons-nous dans nos églises ? La lecture de la Bible ? Oui. La prière ? Oui. Le jeûne ? Et quoi d'autre ? Quoi d'autre ? J'ai un protégé qui a une vision missionnaire formidable et qui est victime de harcèlement à son travail. Qu'est-ce qu'on lui propose comme discipline personnelle ? Comment on l'aide ? Eh bien, se protéger a développé trois disciplines spirituelles qui lui ont permis de sortir du trou. Elle a choisi de remercier Dieu et de louer Dieu pour toutes les choses négatives, y compris les choses difficiles. C'est une discipline spirituelle, la reconnaissance. Ensuite, croire et proclamer que je suis inatteignable, en sécurité en Christ, pour toute humiliation. C'est vrai, on peut être victime des hommes, mais notre identité est en Christ, inatteignable. Et la troisième discipline qui a été développée, c'est avoir une vision du royaume de Dieu en moi partout où je vais. Christ nous accompagne partout. Il est en nous, il vit. Et nous nous laissons écraser par nos circonstances au lieu de développer une discipline spirituelle qui nous fasse prendre conscience que nous transportons le royaume de Dieu avec nous, partout où nous allons. Le deuxième vecteur que Dieu emploie, ce sont les circonstances spirituelles. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Et l'objectif, le focus de ce vecteur utilisé par Dieu pour nous former à l'image de Jésus-Christ, c'est que nous apprenions l'obéissance, la mort à nous-mêmes, la foi et le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit donne un signe certain du caractère transformé lorsque nos attitudes et dispositions les plus profondes sont celles de Jésus. C'est parce que nous avons appris à laisser l'Esprit nourrir sa vie en nous. Dieu utilise des circonstances qui sont souvent difficiles dans notre vie, mais pour nous amener à la ressemblance de Jésus-Christ. Le troisième vecteur utilisé par Dieu pour nous former à son image sont les relations spirituelles. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Parmi les différentes relations spirituelles, couple, famille, église, amitié, le mentorat spirituel dans toute sa constellation Le mentorat spirituel développe des relations mentorales au sein de laquelle une personne, le protégé, cherche à devenir plus comme Christ et s'entoure de mentors qui le guident dans ce processus, directeur spirituel, mentor, accompagnateur spirituel, coach, tuteur, etc. Le focus, c'est d'être entouré d'amitié, de vivre dans une communauté, d'intégrer une église. Les relations pastorales font aussi partie de toutes ces relations spirituelles au travers desquelles Dieu nous forme à l'image de Jésus-Christ. Résumé. Évangélisation, on l'a dit. Discipulat, on l'a dit. Formation spirituelle, tout est là. Et nous sommes en train d'être, de manière continue, formés par Dieu à l'image de Jésus. Remarque. La qualité du leadership de l'Église est directement proportionnelle à la qualité du disciple. Si nous échouons dans le domaine de la formation de disciples, nous ne devrions pas être surpris si nous échouons dans le domaine du développement du leadership. On a déjà là des questions très pertinentes pour tous les responsables d'Église. Quand nous disons que nous ne voyons pas une nouvelle génération se lever, eh bien, c'est que nous devons nous poser la question comment nous avons formé les disciples. Quand nous ne voyons pas le leadership prendre la relève, nous devons nous poser des questions. Mais, allons plus loin. Je suis arrivé à la conclusion personnelle que si Dieu nous forme à l'image de Jésus-Christ, Dieu utilise particulièrement trois éléments. Le premier élément, c'est l'écoute de Dieu, la méditation, la contemplation. J'aurai l'occasion de revenir plus sur ce premier aspect demain matin. Le deuxième élément avec lequel Dieu nous forme, c'est une repentance continue. Nous ne deviendrons jamais à l'image de Christ sans vivre une repentance continue. Et le troisième élément, c'est la conformation. Alors, ça sera en fait le thème des trois prochaines conférences. On travaillera le silence et l'écoute de Dieu demain matin, la repentance demain après-midi et samedi matin, la conformation. Encore deux choses pour vous montrer dans quelle direction je vais aller. Les deux premiers cercles, le silence et l'écoute de Dieu et la repentance, sont particulièrement marqués par la présence, l'œuvre et l'action du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit chaque fois que nous ouvrons notre Bible. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous explique ce que Dieu veut pour nous et ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole. Mais nous avons besoin aussi du Saint-Esprit pour nous conduire à la croix, pour que nous revenions à la croix. Par contre, bien sûr, le Saint-Esprit travaille aussi sur le troisième cercle. Mais la conformation, c'est-à-dire de quoi nous sommes formés, comment garder notre équilibre, là nous avons besoin de relations spirituelles qui nous aident à veiller sur notre équilibre. Donc, je vous indique là comment vont se poursuivre les conférences. Mais, depuis un certain temps, je m'interroge sur cette affirmation. L'institutionnalisation du christianisme a conduit à mettre l'accent sur la foi plutôt que sur l'amour. Aïe, 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 ça pique, hein ? Ça pique. Avons-nous placé la foi au-dessus de l'amour ? Dans notre théologie, dans notre formation de disciples, dans notre communion fraternelle ? Personnellement, j'ai dû reconsidérer mon statut de bien-aimé de Dieu. Parce que ça m'apparaît un trait indispensable de la ressemblance à Jésus-Christ, de se savoir le bien-aimé ou la bien-aimée de Dieu, et que ça soit fondamental dans nos vies. Je prends un exemple. J'ai une jeune fille dans mon église qui a 17 ans, je ne la connais pas beaucoup, et puis j'ai appris qu'elle avait des problèmes de santé par ma femme, qui avait parlé avec sa mère. Et à la sortie du culte, je lui dis « Jeanne, comment tu vas ?» Elle m'a dit « Tu sais, c'est difficile. » Mais si je ne connaissais pas ces épreuves, je ne connaîtrais pas Dieu comme je le connais. La remarque de cette jeune fille de 17 ans m'a atteint profondément. Parce qu'une des caractéristiques de ma propre vie, c'est que je suis passé par 20 ans d'épreuves avec ma première épouse qui était malade et qui est décédée de sclérose en plaques. Et ces 20 ans d'épreuves m'ont façonné. Et entendre ça dans la bouche d'une jeune fille de 17 ans, alors, la semaine d'après au culte, j'ai dit, Jeanne, je peux avoir ton numéro, on pourrait discuter sur WhatsApp ensemble. Et depuis, on s'envoie, elle prie pour moi aujourd'hui, c'est génial. Et un jour, je devais avoir une réunion de jeunes, je lui ai dit, Jeanne, explique-moi, est-ce que toi tu dirais que tu es disciple ou que tu es chrétienne? Elle m'a dit, tu sais, je crois que je ne lis pas assez ma Bible. Cette jeune fille m'avait dit, j'aime Jésus, je ne peux pas concevoir ma vie sans lui, je voudrais le servir toute ma vie. Alors je lui ai dit, mais tu ne m'avais pas dit ça l'autre jour? Alors je lui ai répondu ça sur WhatsApp, et après elle a dit, ah oui, tu as raison, je suis disciple. On n'est pas disciple si on ne lit pas assez sa Bible, ou on est disciple parce qu'on se sait aimé de Dieu. Si nous voulons être à l'image de Christ, nous devons avant tout nous savoir les bien-aimés de Dieu comme Christ le savait. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Je ne sais pas à quel point pour vous c'est important de vous savoir bien-aimé de Dieu. J'ai dû reconsidérer l'amour de Dieu pour moi-même. Nous avons tendance à nous féliciter et à nous dire que oui, après tout, mais non, notre identité découle de ce que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Pour Jésus, c'était très important. C'était très important dans son identité. Jésus lui-même a eu besoin d'entendre qu'il était le bien-aimé de Dieu. Vous connaissez ces deux occasions où le ciel s'est ouvert. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Si Jésus a eu besoin que son Père lui rappelle cette réalité, toi et moi nous avons besoin de cette réalité. Henri Nouwen écrit, je suis convaincu que le moment central de la vie publique de Jésus a été son baptême au Jourdain, quand il a entendu la confirmation, c'est toi mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. C'est l'expérience fondamentale de Jésus. Il se fait rappeler qui il est d'une manière très très profonde. Les tentations au désert sont des tentations qui cherchent à le détourner de cette identité spirituelle. Le diable a essayé de détourner Jésus de son identité. Il lui a fait croire qu'il pouvait être quelqu'un d'autre. Regarde comme tu es puissant. Regarde comme tu peux changer ces pierres en pain. Regarde le pouvoir que tu peux avoir. Et Jésus disait, non, non, non. Je suis le Fils bien-aimé de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Et c'est vrai pour toi. C'est vrai pour moi. C'est le fondement de notre identité à l'image de Jésus-Christ. Henri Nouwen précise, je pense que toute sa vie se passe à revendiquer cette identité au milieu de tout le reste. À certains moments, il est adulé. À d'autres moments, il se voit méprisé ou rejeté. Mais il continue de dire, les autres peuvent m'abandonner, mais mon Père ne me laissera pas seul. Je suis le Fils bien-aimé de Dieu. Je suis l'espérance que porte cette identité. Tu es le Fils. La fille bien-aimée de Dieu. Jésus se retirait la nuit pour prier, pour écouter la voix, pour revendiquer déjà son statut de bien-aimé. Tout de suite après, il entendait une autre voix. « Tu dois faire la preuve que tu es le bien-aimé, lui disait le diable. Change ces pierres en pain ou saute du pinacle du temple pour que les anges te portent sur le main. Prends le pouvoir, exerce ton influence. » Jésus répondit. Je n'ai rien à prouver. Je suis le bien-aimé. Je le suis déjà. Est-ce que toi, dans ce désir de ressembler à Christ, est-ce que tu peux affirmer cet après-midi, je suis le bien-aimé, la bien-aimée de Dieu. Et c'est ça, mon identité. Alors si Jésus avait besoin d'entendre cela, à combien plus forte raison avons-nous besoin de l'entendre ? Vous vous souvenez de ce que Dieu a dit à Jérémie ? Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je sais dans quel contexte cela a été dit, mais Jésus a affirmé, a confirmé cela pour chacun d'entre nous. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous sommes les bien-aimés de Dieu, mais pas à cause de ce que nous avons accompli, pas à cause de ce que nous avons fait nos preuves. Au fond, Dieu nous aime quoi que nous fassions. Si c'est bien le cas, les quelques années que nous passons dans ce monde nous sont données pour que nous puissions dire à notre tour « Moi aussi, Seigneur, je t'aime. Voilà ma vie. Elle est à toi et je veux te ressembler. » J'ai relu récemment Romains et je me suis rendu compte à quel point il y a un lien entre notre statut de bien-aimé et notre identité. Et je voudrais te poser une question cet après-midi. As-tu perdu de vue l'amour que Dieu te porte ? As-tu besoin d'accueillir cet amour, quelles que soient tes émotions et tes circonstances ? As-tu besoin de recentrer ton identité sur le fait que tu es la bien-aimée, le bien-aimé de Dieu ? C'était important pour Jésus dans son enseignement. Vous savez, Dieu est au ciel et nous on est ici-bas et on a parfois l'impression qu'il y a une immense distance, que la communion et la communication avec Dieu est difficile. C'est pourquoi Jésus a développé une théologie qui souligne à quel point Dieu est proche de nous. Il voulait absolument que nous soyons convaincus par tout son enseignement que nous sommes ses bien-aimés. Vous pouvez ouvrir l'évangile où vous voulez. On va juste passer très rapidement sur les trois paraboles de Luc 15. La première, oui, rappelez-vous dans Luc 15, pourquoi Jésus développe ces trois paraboles. Les pharisiens et les interprètes de la loi sont en train de se plaindre. Ils sont en train de dire, mais le voilà qui fréquente des gens sans foi ni loi. Il accueille des pécheurs et il se met à table avec eux. Et la réponse que Jésus va donner à cette interrogation des pharisiens est très importante. Parce que les pécheurs, les gens sans foi ni loi, avec qui Jésus s'assoit, c'est toi, c'est moi. Qu'est-ce qu'il va dire Jésus à propos des pécheurs ? Qu'est-ce qu'il va dire à propos des gens qui... Eh bien, il dit, la brebis perdue. Les pharisiens ne s'attendaient pas à ce que Dieu puisse avoir une réaction qui ressemble aux leurs. Quand il leur arrivait de perdre une brebis, ils ne pouvaient pas imaginer que ce qui est normal pour un berger soit normal pour Dieu. Pourtant, un homme n'accepte pas de perdre une brebis de son troupeau. Il se bat pour la récupérer. En fait, Jésus affirme, « Quand l'un d'entre vous a 100 brebis, il n'accepte pas de devenir un homme avec 99 brebis. Il se met en route pour retrouver celle qui lui manque. Parce que tout ce qui est à vous est à vous. » Et tout ce qui est à Dieu, est-ce que Dieu va se battre ? Est-ce que Dieu va se mettre à notre recherche ? Oui, parce que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Dieu ne consentira pas à nous perdre. Dieu ne consentira pas à être l'homme aux 99 brebis. Et puis vient la parabole de la drachme perdue. On entend presque Jésus dire, vous comprenez qu'on se batte pour une drachme ? Vous trouvez normal qu'on se mette en quatre pour trouver 5 €? Et vous ? Vous cherchez 5 €? Vous remuez la maison pour trouver 5 €? Sachez que Dieu, pour chacune de nos vies, ne va pas nous lâcher. Parfois, il va s'apesantir, mais il tient à nous. Et vous savez pourquoi ? Parce que notre valeur n'est pas la valeur faciale de la pièce de monnaie. Cette femme avait, c'était toute sa fortune sans doute, en tant que veuve. Et c'était la valeur qu'elle accordait à la pièce. Et Dieu accorde à ta vie une très très grande valeur. Et puis c'est le fils prodigue. Le contrepoint et le message ultime. Notre Créateur est un Père. Voici ce qu'écrit Alphonse Maillot. Jamais le Christ n'a voulu nous faire pénétrer aussi loin dans le mystère de Dieu et dans le mystère de la condition humaine. Jamais il n'a autant soulevé le voile qui nous cache la personne de Dieu. Jamais il n'a jeté par ses paraboles une lumière aussi vive sur notre destin. Cette parabole est probablement son dernier mot sur Dieu, son dernier mot sur l'homme. Non pas en ce sens que nous serions incapables d'en comprendre davantage. Non, il s'agit vraiment du dernier mot, autant pour Dieu que pour nous. Tout est vraiment dit sur cette terre et dans le ciel quand Jésus nous révèle que Dieu est Père et que les hommes sont fils. Dieu, dès lors, n'a plus rien de fondamental à nous dire ni à se dire. Il n'en sait pas plus que nous, même s'il comprend bien mieux ce que cela signifie. Il ne peut aller plus loin, il ne peut pas être plus que ceci, Père, c'est-à-dire amour. C'est la vérité dernière. Toutes les autres vérités sur Dieu sont des vérités avant-dernières, des approches, des approximations. Ce sont même des mensonges, si l'on oublie en les formulant celles qui les portent toutes, si l'on oublie le premier et le dernier mot, Abba, c'est-à-dire Père, et peut-être Papa. Si Jésus a eu besoin que son Père lui rappelle qu'il était Fils bien-aimé, toi et moi, nous avons besoin que Dieu nous le rappelle aujourd'hui. Voilà quelques pensées que j'ai glanées chez Henri Nouwen qui peuvent nous montrer pourquoi nous avons besoin que Dieu nous rappelle que nous sommes sa fille et son fils bien-aimé. Parce que tu es confronté à ton péché, à tes limites, tu as besoin de revenir à ton Père pour un motif ou un autre. Voici ce que écrit Nouwen. Le fils prodigue, c'est une histoire de retour. Je saisis l'importance qu'il y a à retourner sans cesse. Ma vie dérive loin de Dieu, je dois retourner. Mon cœur s'éloigne de mon premier amour, je dois retourner. Mon esprit poursuit des images bizarres, je dois retourner. Retourner est le combat d'une vie. Dieu n'exige pas la pureté du cœur pour nous ouvrir les bras. Même si nous retournons à lui parce que nous n'avons pas trouvé le bonheur en suivant nos désirs, Dieu nous prend chez lui. Même si nous retournons parce que le fait d'être chrétien nous apporte plus de paix que d'être païen, Dieu nous reçoit. Même si nous retournons parce que nos péchés ne nous ont pas apporté toute la satisfaction que nous en attendions, Dieu nous accueille. Même si nous retournons parce que nous ne pourrons pas nous en sortir tout seuls, Dieu nous attend. L'amour de Dieu n'exige pas d'explication sur les motifs de notre retour. Dieu est heureux de nous voir à la maison et veut nous donner tout ce que nous voulons simplement parce que nous sommes à la maison. Tu as besoin que Dieu te rappelle que tu es sa fille et son fils bien-aimé parce que tu doutes de toi-même. Le grand obstacle au travail de l'Esprit en nous, c'est que nous nous disons que nous sommes inutiles et que nous ne valons rien. Une fois que je sais que je suis le bien-aimé, une fois que je commence à découvrir cela en moi-même, l'Esprit peut travailler en moi et chez les autres et nous pouvons accomplir de grandes choses. Mais en disant « Non, Dieu ne m'aime pas », parce que je ne suis pas aussi bon que les autres, c'est comme si je négligeais de revendiquer la vérité que Jésus est venu proclamer. Tu as besoin d'entendre que tu es le fils ou la fille bien-aimée de Dieu parce que tu penses que tu n'as pas fait tes preuves. Mais si nous persistons à écouter avec attention la voix qui nous appelle bien-aimée, il nous devient possible de vivre notre brisure et notre morcellement, non plus comme un indice de notre peu de valeur, mais comme l'occasion de purifier et d'approfondir la bénédiction qui repose sur nous. La souffrance physique, mentale ou affective, vécue sous le signe de la bénédiction, est une expérience radicalement différente de la souffrance physique, mentale ou affective, vécue sous le signe de la malédiction. Parce que tu as vécu des échecs et parce que tu penses qu'il faut sans cesse t'améliorer, tu es passé par des temps difficiles dans ta marche avec Christ. J'ai lu cette citation. Le fils prodigue ne revient pas avec un amour renouvelé pour son père. Il revient simplement pour survivre. Et son père est parfaitement d'accord avec ça. Dieu nous veut juste à la maison. Et toi, as-tu perdu de vue l'amour que Dieu te porte? As-tu besoin d'accueillir cet amour, quelles que soient tes émotions et tes circonstances? Une dernière pensée, que pouvons-nous dire de l'amour de Dieu? Nous pouvons dire que l'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu ne m'aime pas si. Il n'y a pas de si dans le cœur de Dieu. L'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de ce que nous faisons ou disons, de notre apparence ou de notre intelligence, de notre réussite ou de notre popularité. L'amour de Dieu pour nous existait dès avant notre naissance et il existera après notre mort. L'amour de Dieu dure d'éternité en éternité et il n'est aucunement lié par les événements et les circonstances de l'histoire et du temps. Cela veut-il dire que Dieu ne s'intéresse pas à ce que nous faisons ou disons? Au contraire, car l'amour de Dieu ne serait pas l'amour de Dieu si Dieu ne s'intéressait pas à nous. Aimer sans condition, ce n'est pas aimer sans préoccupation. Dieu désire entrer en relation avec nous et Dieu veut que nous l'aimions en retour. Et c'est comme ça que nous serons à l'image de Jésus-Christ, en ayant intégré pleinement la profondeur de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Je vous propose un moment de silence et l'occasion de revenir à notre Père.